En général, quelqu'un de très atteint, pour diverses raisons, parce que d'abord, à cause des listes d'attente qui sont encore présentes, on est bien obligé de traiter ceux qui souffrent le plus, et puis il y en a d'autres qui peuvent encore attendre, et également parce que c'est quand même une intervention chirurgicale.
Quand vous dites une liste d'attente, c'est combien de séances? On parle en semaine, on parle en mois?
2 ans actuellement.
2 ans?
Mais c'était 8 ans il y a quelques années.
Vous dites qu'il y a des gens qui ont attendu 8 ans pour être opérés?
Non. Au moment où on leur a dit qu'on pourrait les opérer, la liste d'attente était de 8 ans.
Ans. Et maintenant,
elle est de 2 ans. Ce qui devient raisonnable, parce que c'est une intervention qui nécessite quand même qu'on s'y prépare.
Et... Je ne voudrais pas vous contredire, mais raisonnable d'attendre 2 ans avec les symptômes du Parkinson, en sachant que quand on voit les résultats, on va se retrouver libéré. C'est 2 ans de prison quand même.
C'est 2 ans de prison, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais c'est quelque chose qui nécessite d'être mûri. Hein.
La préventive est longue chez vous. Donc, au bout de 2 ans, la porte du bloc opératoire s'ouvre et au miracle, on peut s'y allonger. On reste conscient, c'est-à-dire que vous ne faites absolument aucune anesthésie générale.
Non, il y a une anesthésie locale ou des moyens divers pour que le malade qui est fixé sur un cadre sérotaxique qui...
Qu'est-ce que vous appelez un cadre sérotaxique?
Un cadre sérotaxique, en gros, c'est un bâti sur lequel il y a 4 pointes qui sont vissées dans la voûte osseuse du crâne et qui fait que le malade ne peut absolument pas bouger.
Alors on va s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire que le malade s'allonge, là vous lui mettez, c'est comme autrefois, vous savez, pour tenir les raquettes de tennis un peu, il y avait ça, ces espèces de...
La raquette de tennis, elle est écrasée, là on a 4 pointes qui viennent un peu comme une pince à sucre, si je peux me permettre l'expression.
Alors vous avez repéré, vous avez rasé le crâne?
On rase le crâne, il y a des équipes qui ne le font pas, nous on continue à le faire, on pense que c'est mieux.
Et vous avez repéré, quand vous dites que vous allez vous fixer dans... ça doit faire mal quand on va se fixer dans...
Non, on fait une anesthésie locale, l'os n'est pas douloureux. Ouais. On a au préalable utilisé 2 techniques de radiologie pour repérer les structures vers lesquelles on va aller, qui sont d'une part l'IRM, et d'autre part la ventriculographie, qui consiste à ponctionner... à travers la voûte crânienne, les ventricules à l'intérieur du cerveau, on injecte un produit opaque, on a une image sur laquelle on va calculer les trajectoires.
Vous calculez la trajectoire avant et vous êtes en contrôle visuel permanent ou vous allez de temps en temps faire des clichés pour voir comment vous avez progressé?
On va faire des clichés pour s'assurer qu'on est bien là où on pense.
On ne peut pas imaginer demain avec du matériel qui ne soit pas magnétique qu'on puisse faire ça à l'intérieur d'une résonance magnétique nucléaire pour voir la progression?
C'est envisageable, ça peut déjà se faire à l'intérieur d'un scanner. La question est de savoir si c'est plus facile ou pas. Et deuxièmement, quelles sont les précisions de visualisation de la cible à ce moment-là?
Alors après intervient ce que j'appellerais, n'y voyez aucune allusion, le torero du cerveau, puisque vous sortez vos aiguilles qui sont très très longues.
Alors elles sont très longues, disons qu'elles doivent tenir dans le porte-électrode, donc il y a une certaine longueur, puis elles doivent traverser surtout une partie du cerveau, et la traversée du cerveau est de l'ordre de 8 à 10 cm.
Enfin, 8 à 10 cm, ça fait ça. Parce que ce qui est malheureux dans le Parkinson, c'est que la zone à toucher, elle est en plein milieu, en fait.
À peu près,
à peu près en plein milieu du cerveau.
Elle se projette à peu près là, sur la ligne médiane.
Donc là, vous enfoncez, ça ressemble à quoi? Alors, excusez-moi de vos questions, mais on a tous envie de poser. Ça ressemble à quoi quand on enfonce une aiguille dans le cerveau?
La description la plus simple, ça serait une aiguille à tricoter de petit calibre.
Oui, et puis
le problème, c'est qu'au bout, il y a une pointe très très fine qui, elle, fait 1 à 2 microns, qui est une électrode qui nous permet d'enregistrer des neurones. Et au fur et à mesure qu'on descend, on est à l'écoute des neurones que l'on croise. Et
à l'écoute, comment? C'est-à-dire, vous voyez, voyez une paupière qui se lève?
Non, il y a des amplificateurs, on voit sur un écran d'oscilloscope.
Et vous avancez, à quelle vitesse?
On avance, disons que pour faire 2 cm, on met 2 heures.
Ah oui, la préventive est longue et la vitesse n'est pas rapide. C'est sûr.
On estime 2 cm
à l'heure. C'est-à-dire que vous avancez par.
On avance par petites étapes, 1 mm, 1 demi-millimètre, on enregistre les cellules.
Comment vous contournez quand parce que on peut se dire qu'une aiguille c'est pas un tuyau souple.
On ne contourne pas. En fait, ce sont les neurones qui s'écartent.
Ah, vous écartez, c'est.
Disons qu'on a quelque chose qui est quand même relativement de petit diamètre au bout et qui au niveau de l'électrode du tube qui porte cette électrode qui est un petit peu plus mousse. Et on enfonce cette électrode dans un.
Alors vous avez dit 8 à 10 cm, 2 cm par heure. On se retrouve 4 à 5 heures plus tard. Là.
Non, parce qu'on a descendu les 6 premiers centimètres très rapidement, étant donné que ce n'est pas une zone d'intérêt.
Ah bon,
on sait que là, on a,
vous risquez rien. Les six premiers centimètres du cerveau ne présentent qu'un intérêt mineur.
Non, ils n'ont pas d'intérêt pour le traitement de la maladie de Parkinson.
Oui, mais vous risquez pas de détruire quelque chose.
Alors ça, c'était tout le problème de la visée préalable. Ouais. Quand on descend nos électrodes, on a calculé pendant plusieurs heures et souvent les jours avant quelle était exactement la trajectoire à suivre.
Et comment elle n'est pas standard chez les gens? C'est une trajectoire qui
elle
change.
Elle est standard, sauf que les gens ne sont pas standards. Ah, donc, on a un moyen de normaliser ces données-là.
Mais vous savez exactement dans le cerveau, maintenant, le neurologue, où tout ce qu'il y a est à tout endroit, à quoi sert chaque endroit du cerveau.
On ne sait pas tout ce qui est dans le cerveau et à quoi ça sert. On a de bonnes idées sur un grand nombre de structures, et en particulier dans la zone où on travaille.
Vous passez par le haut du cerveau, vous n'auriez pas pu passer par la bouche ou par les...
De toute façon, il faudrait traverser une partie du cerveau puisqu'il n'est pas non plus sous le cerveau. Ouais. Et puis, si on devait passer par la bouche, on traverse des zones qui sont plus sceptiques. Et plus
avant de parler du côté merveilleux de votre intervention, est-ce qu'il y a des pépins? Est-ce qu'il y a des fois en cours de route?
À partir du moment où on fait de la chirurgie, il y a toujours un risque qui est très faible, qui est de moins de 2%, mais qui est faible, existe quand même.
La chirurgie du fémur est quand même moins risquée que... Je ne parle pas de l'anesthésie et tout ça, mais le fait d'être dans le cerveau, est-ce que ça crée un risque supplémentaire? Est-ce que parfois, vous avez des gens qui se retrouvent paralysés ou avec...
Il y a un risque estimé actuellement à 1% de complications hémorragiques.
Pas plus.
Pas plus, non.
Alors, pour arriver à l'endroit où vous allez stimuler, parce que la finalité, c'est de mettre de l'électricité à un endroit bien précis, il se passe combien en moyenne? 3-4 heures?
On met en général, dans notre service, mais on a la réputation d'être particulièrement lent, on met pratiquement 12 heures pour opérer un malade.
12 heures
Étant donné qu'on opère les deux côtés, l'un à la suite de l'autre. Donc il y a un temps d'installation sur le cas.
Vous êtes concentré pendant 12 heures, vous?
On ne peut pas dire qu'on est tout le temps concentré, mais c'est une succession d'étapes et de gestes différents. Ouais. C'est pas un mouvement continu du chirurgien. Ouais. On est plusieurs, c'est un travail d'équipe. Il y a un électrophysiologiste.
Avec la préparation et les 35 heures, vous ne pouvez pas en faire plus de 2 par semaine, alors?
Ça dépend ce qu'on appelle 35 heures, il suffit de changer l'échelle.
Mais vous en faites combien par semaine, par exemple?
On en fait une par semaine.
Une par semaine. C'est parce que c'est trop fatigant d'en faire plus d'une?
Non, c'est parce qu'on a d'autres fonctions aussi. On ne fait pas que ça dans mon service. On fait toute la neurochirurgie. Ah, donc c'est une partie de la neurochirurgie. En gros, on opère 1500 malades par an dans mon service et on opère 50 parkinsoniens.
Alors donc, quand vous arrivez à l'endroit stimulé, là pendant ce temps-là, le patient, lui, je ne dis pas qu'il fume la pipe, mais il est...
Il est tout à fait conscient et au moment où on arrive dans la zone importante, on va avoir besoin de sa coopération.
Là, il va coopérer.
Absolument.
Jusque-là, vous lui expliquez
ce qu'on fait, il nous entend parler, il peut se manifester.
Et il y a un moment, le professeur Benhabib dit, ça y est, on est au bon endroit.
Je
vous la fais un peu genre téléfilm américain. Hein. On y est, tout le monde reste concentré, et là, on va se brancher.
Voilà, à partir du moment où on est dans la zone où on estime que c'est là qu'il va falloir être très précis, on a nos électrodes qui sont connectées à des chaînes d'amplification, c'est un petit peu de la radio. On regarde sur nos écrans, on voit apparaître des spikes qui sont les potentiels d'action, c'est le langage codé des neurones. On est entraîné à reconnaître quels neurones on croise. Et en particulier, on va par exemple bouger le poignet d'un malade. Et si on est dans la région qui contrôle la rigidité de ce poignet, on va avoir des neurones qui vont modifier leur activité.
Ah, c'est-à-dire que le malade bouge et là, vous voyez... Et donc, c'est à ce moment-là, vous pouvez dire, clac, on envoie de l'électricité, on voit ce que ça fait.
Et à ce moment-là, on va, à l'inverse, envoyer de l'électricité à haute fréquence, parce que c'est toute l'astuce de cette technique est de stimuler à haute fréquence. Et on va, en quelque sorte, bloquer le fonctionnement de ces neurones. Et le malade va ressentir des effets divers. Soit ce sont des effets néfastes, du style fourmillement ou une petite contraction d'un muscle de la joue. On sait que ce n'est pas tout à fait là qu'il faut être. Ou bien au contraire, sa rigidité va disparaître, tremblement.
Vous changez la puissance du courant ou vous reculez un petit peu l'aiguille?
Non, on va continuer.
Continuer, c'est-à-dire continuer le...
On va avancer.
Continuer à avancer. C'est pas l'intensité qui fait la différence.
Ouais, il est certain que plus on stimule fort, plus le courant va diffuser à distance. Mm-hmm. Mais ce qu'on cherche, ce sont des effets qu'on a très près de l'électrode, donc avec
mais
des intensités
quand vous avez trouvé un effet bénéfique, c'est-à-dire par exemple le tremblement s'arrête, vous dites vous continuez, c'est-à-dire vous quittez cette zone-là, elle est pour une fois... Ou alors vous
elle
laissez en place...
Elle est identifiée. On va identifier toute la zone... qui s'étale sur finalement 4 à 6 millimètres.
Ouais.
où on a ce genre de réponse.
Et alors après, vous allez mettre des petites électrodes partout ?
Alors après, on va mettre à la place de cette microélectrode qu'on avait avancée point par point, une électrode chronique qui va rester définitivement et qui, elle, a quatre contacts qui vont couvrir cette zone-là.
De toute façon, le maximum de ce que vous recherchez, c'est quatre points.
Disons, c'est une zone où on va mettre ces quatre points.
Oui, une zone où vous allez mettre ces quatre points. Et pourquoi pas quatre, pourquoi pas dix ? C'est parce que...
C'est un bon compromis.
C'est un bon compromis. Mmh.